Quand on parle d'un problème, on a toujours une connotation, nous, qui est très négative. Problème égale quelque chose de négatif. Vous allez voir que dans ce que je développe, je ne cherche pas à vous culpabiliser, ni à mettre en évidence quelque chose de négatif par rapport à la foi dans nos vies et dans nos cœurs. C'est pas ça que je veux dire. Si je faisais cela, je serais un piètre prédicateur et je vous tirerais vers le bas. Ce que je désire, c'est qu'en sortant de ces moments-là, vous soyez fortifiés dans la foi. Vous soyez encouragés, votre foi prenne un peu plus de profondeur, de volume. Je ne sais pas ce que vous avez vécu aujourd'hui, ce que vous vivez ces derniers temps, si votre foi parfois elle est malmenée au point que vous exprimiez parfois certains doutes sur un aspect, sur un autre. J'en ai connu des gens, quand j'étais à Villeneuve-sur-Lot, il y avait une mamie de 87 ans qui me disait, après des dizaines d'années de conversion, « j'ai peur de mourir ». Ça me semblait bizarre, moi. D'entendre dire d'une chrétienne qui avait autant d'expérience, j'ai peur de mourir. Elle avait une faiblesse à ce moment-là et on a essayé de l'encourager du mieux qu'on peut. Je n'ai pas eu l'occasion de l'accompagner dans ces derniers jours puisque je suis parti avant. Mais je sais que ça m'avait étonné de voir que dans l'expression de sa foi, pouvait aussi il y avoir de la peur quant à ce passage de la vie à l'au-delà. Et ça m'avait étonné. Et c'est vrai que parfois, on peut se retrouver dans la foi, eh ben, pas au top, avec quelques difficultés. Et on a besoin, avec la grâce de Dieu, de laisser certains aspects de la parole de Dieu venir nous convaincre. C'est important. Alors on va lire quelques textes, quatre essentiellement qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Alors on va, et je vais vous épargner des contextes, j'y reviendrai dans le développement, mais dans Matthieu 6, on va lire simplement les versets, verset 30. Vous savez, c'est dans le contexte, pendant que vous cherchez, où Jésus dit de ne s'inquiéter de rien. Et je vous pose la question tout en cherchant, c'est facile de s'inquiéter de rien? Non. Alors des fois on dit non, mais je ne m'inquiète pas. Mais enfin, on développe l'anxiété tellement visible que ça ressemble à de l'inquiétude quand même un peu. C'est pas évident de ne pas s'inquiéter. Quand un enfant est malade, quand on est parent, c'est pas évident de ne pas s'inquiéter. Pas évident de ne pas s'inquiéter quand on perd un travail et qu'il faut nourrir une maison. Pas évident de ne pas s'inquiéter quand on est malmené par une situation ou un problème de santé qui peut surgir dans notre vie. L'inquiétude peut vite faire place. Et Jésus va dire au verset 30, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, Jean, de peu de foi ?» Alors peut-être que ça peut avoir une connotation négative d'entendre Jésus dire « gens de peu de foi ». Moi je pense que Jésus au contraire veut stimuler notre foi. Dans l'évangile de Matthieu, on va un peu plus loin, chapitre 8, verset 26. On va les lire dans l'ordre. C'est un moment où les disciples se trouvent dans la tempête. Bonsoir Daniel. Ils sont au milieu de la tempête. Ils ont Jésus qui est dans leur barque. Et pourtant, ils paniquent un peu, ils s'agitent beaucoup. Et Jésus va leur dire, verset 26 du chapitre 8, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Rapidement, Matthieu 14, un autre récit qui parle d'une autre tempête. Mais là, ce moment-là, Jésus va parler particulièrement à un homme, comme il pourrait ce soir, parler particulièrement à quelqu'un au milieu de nous, dans sa situation. Parfois Dieu parle d'une manière générale, parfois Dieu s'adresse à nous en particulier parce qu'il veut nous faire comprendre certaines choses. Pierre a voulu aller vers le Seigneur, et puis à un moment donné, on va y rentrer tout à l'heure dans les détails, il va s'enfoncer, s'est crié vers le Seigneur, sauve-moi, et aussitôt, verset 31, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Un dernier texte, Matthieu 16, verset 8. Jésus leur a dit dans le contexte, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Eux, ils raisonnaient parce qu'ils n'avaient pas pris de pain que Jésus parlait de la sorte. Et Jésus va connaître ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent. Et il va leur dire au verset 8, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain ? J'attire votre attention sur le fait que Jésus sait même ce qu'il y a au fond de nos vies sans que nous l'ayons exprimé de nos bouches. Il le sait. Alors si je vous pose la question en démarrant ce soir, êtes-vous dans la foi dans ces moments ou y a-t-il, ou pourrait-il y avoir un problème de foi dans votre vie, vous allez chacun y répondre pour vous-même, comme moi-même j'y ai répondu dans ma vie, quand j'ai médité ces quelques paroles de l'Écriture. Quatre versets qui illustrent ce que moi j'appelle un problème de foi. Vous savez que dans la langue française, un problème, ce n'est pas forcément un problème de mathématiques, de physique, etc., que l'on va résoudre. Il y a des choses qui ne se résoutent pas de la manière dont on peut l'apprendre dans l'Académie française. Quand je parle d'un problème, le premier des synonymes que la langue française met en évidence pour problème, c'est difficulté. Alors je repose ma question d'une autre manière. Vous arrive-t-il parfois d'être en difficulté par rapport à votre foi? Si oui, et moi je vais vous dire oui, parfois je suis en difficulté par rapport à ma foi. Pourquoi? Parce que je suis de la même nature que vous. Je ne suis pas supérieur à vous. Je ne suis pas meilleur que vous. Il n'y en a pas un qui est meilleur l'un que l'autre ce soir. Parfois, dans une situation ou dans une autre, nous pouvons être malmenés dans notre foi. Et notre foi peut connaître bien des faiblesses qui peuvent faire en sorte que bien des choses peuvent être remises en question. Alors, on est tous différents, avec des tempéraments différents, mais reconnaissez quand même avec moi le fait que oui, parfois, nous pouvons connaître des difficultés quant à notre foi et quant à l'expression de notre foi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je raisonne ainsi, pour moi, ce n'est pas un problème au départ. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on est venu à Christ, les uns et les autres, on n'était pas plein de foi. Moi, je me rappelle la première fois où je suis rentré dans une église, comme celle-ci, il n'y avait pas plus de monde qu'aujourd'hui, et que j'ai entendu pour la première fois l'évangile prêché, qu'il y avait un bonhomme qui avait pris une chaise, qui montait sur la chaise et qui devenait tout rouge, et qui me mimait zaché sur le sycomore, qui était là et qui attendait de voir Jésus, je disais, mais il est fou celui-là. Et j'avais, dans l'expression de ce que je croyais, pas du tout la foi, hein. Je disais, mais je suis tombé chez des fous. Je n'exprimais pas la foi, mais j'étais dans une attitude plutôt de jugement, j'avais peut-être une attitude un petit peu méprisante, je regardais les choses avec un petit peu de décalage, et je me disais, mais c'est quoi cette affaire? Je ne comprenais pas du tout où on était. Pourtant, quand il a continué à prêcher avec son entrain et autres, à la fin, quand on s'est mis dans le recueillement et dans la prière, la présence de Dieu a fini par me convaincre que, au-delà de la forme, ce qui avait été prêché, c'est ce dont j'avais besoin. Et en l'occurrence, ce que je réalisais, c'est que j'avais besoin du Seigneur. L'expression de ma réponse à ce moment-là, parce que j'ai répondu à l'appel, c'était pas une grande foi. Et j'ai répondu convaincu par le Saint-Esprit, parce que je pouvais pas mettre le Saint-Esprit à ce moment-là, parce que je connaissais pas Dieu, mais j'ai bien senti que Dieu m'interpellait, que Dieu me parlait, que j'avais besoin de Dieu dans ma vie. J'ai exprimé une petite foi, c'était vraiment pas grand-chose, mais je l'ai exprimé en répondant. Vous savez que dans l'Écriture, Jésus dit « si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé ». Vous savez que dans l'Évangile de Matthieu, c'est à deux reprises que Jésus en parle. La première, c'est quand Jésus est confronté à cet homme qui a amené à ses disciples son fils qui était possédé. Et il va dire, tes disciples n'ont pas pu délivrer mon fils. Jésus va dire, jusqu'à quand serai-je avec vous, race incrédule? Il va faire venir cet enfant, et quand cet enfant va être délivré, les disciples vont dire, mais comment ça se fait que nous, on n'a pas pu délivrer cet enfant? Alors que Jésus l'a délivré. Et il va leur répondre, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne de se transporter de là et d'aller se jeter dans la mer, et ça se ferait. Mais il y a une autre circonstance où Jésus va répéter cela. C'est quand Jésus va maudire le figuier dans Matthieu chapitre 21. Et les disciples vont être étonnés de ce qu'en un instant, le figuier a séché. Vous vous rappelez de ce récit? Et Jésus, pour la deuxième fois, va répéter, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Dans l'expérience du salut et dans les expériences que l'on a faites, qui nous ont permis d'accepter le Christ, chez certains, ça a été la guérison. Chez certains, ça a été la délivrance de l'emprise des ténèbres. C'est mon cas à moi, puisque depuis ma tendre enfance, on m'a mené dans les bras des guérisseurs, des voyants. Et j'ai grandi comme ça jusqu'à ce qu'on me mette entre les mains une Bible ou que je puisse lire les évangiles et découvre qu'il y avait un Dieu vivant réel qui était capable de répondre à mes besoins alors que ma vie était en train de sombrer petit à petit. Mais dans l'expression de ma foi, je puis dire ce soir avec beaucoup d'honnêteté qu'elle n'était pas bien grande quand j'ai levé la main. Mais en un instant, il a fait un miracle dans ma vie. Il m'a délivré, il m'a changé, il m'a transformé, il m'a pardonné de mes péchés. C'est vrai que je l'ai vécu comme vous l'avez vécu, dans la mesure de cheminement qui était votre vie. Mais dites-moi, cette mesure de foi que nous avons reçue, qui a été départie à chacun, elle n'est pas appelée à rester un grain de sainteté. Elle est appelée à se développer. Elle est appelée à grandir. Et c'est au travers des circonstances que Dieu veut aussi éprouver notre foi et la voir grandir. Alors si je me pose la question, Bruno, aujourd'hui au 21e siècle, où en est ta foi par rapport à ta conversion il y a 34 ans? Le problème qu'il y a, c'est que parfois, dans le christianisme, dans le sens le plus global, les gens n'évoluent pas dans la foi. Et s'ils traduisent les choses de la manière suivante, ils sont confrontés à un problème, ils s'affolent, ils s'agitent, ils alertent tout le monde, et ils appellent les uns les autres. « Priez, mon frère et ma sœur, il y a tel problème !» Alors, comme j'étais dans une église, certains disaient « Plus on est à prier, mieux c'est !» Et je leur disais « Mais c'est pas l'expression de la foi, ça !» C'est l'expression d'une superstition, pas de la foi. C'est pas parce qu'on est plusieurs, et plus on est à prier, et plus ça va marcher, et plus Dieu va nous entendre, c'est pas ça. La foi simple nous permet de dire que même la foi d'un simple enfant, Dieu l'entend, et est capable d'y répondre. Je crois que parfois, au niveau de la foi, beaucoup sont restés enfantins, et ont besoin de grandir quant à la foi, de se développer quant à la foi. Dieu, oui, a donné à chacun, comme Paul l'enseigne aux Romains, une mesure de foi. Mais cette foi, elle doit se développer. Quand vous regardez les épîtres pastorales, et on va revenir dans le détail de nos quatre versets ce soir, mais permettez quand même que je fasse cette réflexion. Vous allez dans les épîtres pastorales et vous vous rendez compte que un problème de foi ne doit pas être quelque chose qui va culpabiliser les croyants. Paul n'a jamais cherché à culpabiliser les croyants. C'est pas bien, tu as pas la foi. Vous ne le voyez jamais dire cela. Vous ne l'entendez jamais exprimer cela. Quand on a rencontré un jour une difficulté, quelqu'un m'a dit « Ça vous est arrivé parce que vous n'avez pas eu la foi. Ben » heureusement que Dieu n'est pas comme les hommes et qu'il ne nous catalogue pas aussi vite que les hommes. Non, l'expression de la foi, elle est ce qu'elle est dans nos cœurs et dans nos vies. Ce que Dieu veut, c'est qu'elle grandisse. Ce que Dieu veut, c'est que nous lui fassions confiance de mieux en mieux, de plus en plus. Et pas que nous nous regardions, excusez-moi l'expression, comme des chiens de faïence, en comparant notre foi aux uns et aux autres, en disant « moi j'ai la foi » et lui non. C'est pas du tout ce que Dieu demande. Et quand je regarde les épîtres pastorales, je me rends compte que Paul veut donner à chacun l'occasion de compléter ce qui manque à sa foi. On n'a pas tous le même niveau de foi. Comme je pourrais dire, on n'a pas tous le même niveau de sanctification. On n'est pas tous au même niveau de la compréhension de l'Écriture et de l'application qu'on en fait. Sinon, on serait une église parfaite. Mais moi, je ne suis pas parfait. Et vous, avec moi, vous ne l'êtes pas non plus. Et on veut essayer de progresser avec la grâce de Dieu. Si on est appelé à combattre le bon combat de la foi, qui est celui de la proclamation de l'Évangile, et ça ne sert à rien de prêcher l'Évangile si on ne croit pas que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace et qu'elle est capable de toucher un cœur et de le transformer. Ça ne sert à rien de prier si nous n'avons pas la foi en priant que Dieu nous écoute et qu'il nous exauce. Je veux dire, sur ce terrain de la foi, il y a besoin de considérer certains aspects, de les rappeler à nos cœurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvenez-vous dans le livre de Job, Job disait « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche ». Mais les paroles de sa bouche, c'est celle que nous partageons ce soir, à savoir, c'est la parole de la foi que nous prêchons, comme dit l'apôtre. Ça veut dire que quand nous sommes là, et on va y revenir un peu plus encore tout à l'heure, à l'écoute de la parole de Dieu, nous nous donnons l'occasion de voir notre foi être affermie, grandir. Et dites-moi, on n'en a pas besoin de voir la foi grandir dans nos vies et dans nos cœurs? Quand j'étais dans une certaine église, et quand je suis arrivé, un jour j'ai dit aux anciens la chose suivante. Je leur ai dit, je ne peux pas considérer ou accepter le fait d'aller au ciel sans que mes enfants soient sauvés. Ma foi ne me permet pas d'accepter autre chose que le salut de mes enfants. Je les veux avec moi dans le ciel. Et il y a un des anciens qui m'a répondu la chose suivante. « Mais enfin, tu me choques quand tu dis ça. » Alors je lui dis, mais pourquoi je te choque? Il me dit, parce que tu ne peux pas savoir si tes enfants vont être sauvés ou pas. J'ai dit, entends ce que je t'ai dit. Ma foi ne me permet pas de considérer autre chose que d'entrer dans le ciel, moi et mes enfants. Je ne veux pas considérer autre chose, ni retrancher autre chose à cela. Sinon, à quoi ça sert que tu élèves tes enfants? J'ai dit, je veux croire dans le salut de mes enfants. À quoi cela me servirait de donner mon temps à l'Église, de donner mon énergie, si à côté de cela, mes enfants ne sont pas sauvés? Non, je crois que si je donne ma part à Dieu, Dieu s'occupe aussi de ceux qui sont à mes côtés. Et je ne veux pas croire autre chose que dans le salut de mes enfants. Et je veux faire tout travailler dans ce sens-là. C'est ce que je crois. Alléluia. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, j'en ai 4 sur 5 qui sont baptisés. Et je me dis, Seigneur, il reste que la petite dernière. Elle a 9 ans. On a encore un petit peu de marge. Mais je ne veux pas considérer dans ma foi autre chose que d'entrer dans le ciel, moi, ma femme et mes enfants. C'est pas possible. Et je veux vivre avec cette dimension de foi-là. Sinon, mes frères et mes sœurs, nous laissons à l'adversaire un avantage qu'il n'a pas à avoir dans nos vies. Je crois qu'effectivement, ce que Paul a dit au geôlier est quelque chose dont je veux m'emparer. Quand il lui a dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Mais je dois vous dire quand même un petit détail. C'est très mal traduit ce verset. Et ça nous aide dans l'orientation, dans la prière. Parce que c'est comme ça que je prie. Parce que le verset dit ceci. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et que toute ta famille en fasse de même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, toi en croyant, tu parviens au salut et que ta famille de la même manière se mette à avoir la foi pour aussi être sauvée. Mais voyez-vous, dans la prière, je prie dans ce sens-là. Il n'y a pas quelque chose de systématique. Mais je crois qu'il y a une réponse à la foi. Dieu nous sauve, Dieu œuvre, Dieu agit d'une manière miraculeuse. Et ça, je veux le voir dans la vie de mes enfants. Et je veux y croire de tout mon cœur. Je vous parlais tout à l'heure des épîtres pastorales. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit quand il parle à l'épître aux Thessaloniciens, à cette jeune église. Ils n'ont que quelques mois de conversion. Ils font de suite face à l'opposition. Ils doivent assumer un quotidien qui n'est pas facile. Ils ont embrassé la foi. Ils ont été touchés par l'amour de Dieu. Ils servent le Seigneur. Et de suite, ils sont confrontés à l'opposition des Juifs. Paul doit partir, il reste seul. Et Paul leur écrit et il écrit. Nuit et jour, nous prions Dieu avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Et je me suis interrogé, mais que veut dire Paul quand il dit « Je prie que Dieu nous fasse la grâce de venir vous voir pour compléter ce qui manque à votre foi ?» Par quel moyen ? Je vous disais tout à l'heure que Paul parlait des paroles de la foi que nous prêchons, par l'instruction de la parole de Dieu. Il voulait permettre à ces chrétiens d'avoir une foi plus fine, une foi assainie. Ce qu'il mentionnera dans d'autres épîtres comme étant une foi saine. Je vous pose la question ce soir. Comment qualifiez-vous une foi saine? C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre qui parle et il parle d'une foi saine. C'est quoi pour vous une foi saine? N'ayez pas peur, c'est pas un piège. Une foi qui doute pas. Pourquoi pas? Oui. Oui, ça en fait partie. Une foi qui doute pas. Qui s'appuie sur la parole de Dieu. Oui, parce que la foi vient de la parole de Dieu. Je vais vous dire, une foi saine, dans le mot « saint », vous avez une indication. C'est une foi vidée de tout ce qui ne pourrait pas être la foi, c'est-à-dire une foi vidée, par exemple, de tous nos héritages. On a un héritage religieux, éducatif, social, etc. Et ces choses viennent influencer l'expression la foi qui est la nôtre. Je vous donne un exemple. Moi, je suis de confession à l'origine catholique. Ma grand-mère, la nonna, l'italienne, elle nous a obligés à faire le catéchisme. Donc, j'ai grandi avec une éducation religieuse catholique. J'ai fait 5 ans avec les bonnes sœurs. Quand je me suis converti, j'ai cru que je savais tout, puisque j'avais eu mon éducation religieuse. Mais je me suis rendu compte qu'entre ce que je croyais croire et ce que la Bible me montrait, il y avait quand même parfois des choses en totale contradiction. Et il m'a fallu faire quoi ? Faire plier ma volonté, mes raisonnements, ce que je croyais être vrai, aux paroles de ce qui sortait de la bouche de Dieu. Vous savez que Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Ça veut dire quoi dans la pratique ? Je vais vous le dire. Dans la pratique catholique, parfois, il y a des expressions et des pratiques qui sont vraiment empreintes de superstition. Le signe de croix. Vous savez, parfois, dans la récitation du Notre Père et dans la répétition du Notre Père, des choses qui faisaient qu'à un moment donné, on priait comme des païens qui croient qu'en multipliant les paroles, ils vont être entendus de Dieu. Il m'a fallu quand même, en lisant l'Écriture, me vider de certaines pratiques héritages que je croyais être ceux de la foi, mais qui n'en étaient pas la foi. Je vous donne un autre exemple. Dans ma propre famille, pour ne gêner personne, ma grand-mère, dès qu'elle entendait l'orage, elle allait s'enfermer dans le KGB parce qu'elle croyait que Dieu était en colère. Ça vous fait sourire à vous, mais elle tremblait comme une feuille. Elle avait reçu ces héritages-là dans la pratique de sa foi. Et je me rappelle que ma propre mère, quand elle parlait de Dieu, elle l'évoquait comme un Dieu intransigeant. Et la notion de cette intransigeance-là faisait qu'elle disait « Moi, je tremble devant Dieu ». Elle avait une connaissance de Dieu qui était un petit peu déséquilibrée parce qu'elle ne le recevait plus comme un père aimant, compatissant, mais elle ne le recevait simplement que comme quelqu'un de dur, intransigeant, comme un père fouettard. Et pourtant, elle avait expérimenté la nouvelle naissance. Sa foi n'était pas vidée de ses héritages et influençait l'expression de ce qu'était vraiment sa foi. C'est là que je dis, on a besoin nous aussi d'avancer et d'épurer et de laisser la parole de Dieu venir épurer notre foi pour qu'on puisse marcher selon ce que la parole de Dieu dit, selon l'instruction biblique. Quand je pense à l'épître aux Thessaloniciens, dans la deuxième épître, Paul disait, en parlant des chrétiens de Thessalonique, que leur foi faisait de grands progrès. Ça veut bien dire qu'il y avait un cheminement dans la foi. Il y avait une compréhension qui était plus profonde, qui leur permettait de croire d'une manière beaucoup plus équilibrée. Rappelez-vous, dans le contexte, il y avait quand même les idoles. Il y avait plein de choses qui étaient là et qui venaient un petit peu les influencer, des influences extérieures. Mais ces hommes et ces femmes, jeunes convertis qu'ils étaient, ont fait de grands progrès dans la foi parce qu'ils ne dépendaient que de ce que la parole de Dieu leur disait. Et on a besoin, avec la grâce de Dieu, nous aussi, de progresser sur ce terrain-là. Quand je pense à l'épître aux Romains, il dit que leur foi était renommée dans le monde entier. Bien entendu, le monde entier d'alors. Mais leur foi était renommée. Moi, je fais un vœu pour l'église de Draguignan, c'est que la foi des chrétiens qui sont dans l'église soit renommée dans toute la Dracénie. C'est tout le secteur. Qu'on entende parler de leur foi. Une foi qui bénit, une foi qui édifie, une foi qui donne envie, une foi qui tire vers le haut, qui nous fait progresser avec Dieu. Alléluia. Ça, c'est la foi. Et on a besoin, avec la grâce de Dieu, de s'étalonner à cela. Je veux quand même vous rappeler, mais je le sais que vous le savez, mais c'est bien de le dire, que Paul l'a dit aux Éphésiens au chapitre 2, verset 8, quand il leur a dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il leur dit, c'est par le moyen de la foi. Mes frères et mes sœurs, ça vient ni de vous, ni de moi. C'est le don que Dieu nous a fait. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, c'est de lui que nous l'avons reçu. Il n'y a rien pour nous, c'est tout pour la gloire de Dieu. Et nous voulons, avec la grâce de Dieu, comprendre certaines choses. C'est là que j'en viens à nos 4 versets. Comprendre et bien comprendre ce que Jésus veut dire quand il parle de gens de peu de foi. Alors bien entendu, dans le grec, c'est petite foi, c'est une foi faible. Au départ, comme je le disais tout à l'heure, on peut le comprendre. Mais après des dizaines et des années de conversion, il y a quand même des anomalies. Il y a quand même des anomalies à rester toujours avec une petite ou une faible foi. Ça peut arriver accidentellement. Mais j'aime penser et repasser dans mon cœur ce que Samuel a vécu quand ceux qui pensaient le lapider étaient là en face de lui et étaient mécontents. Il va reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. C'est l'expression de la foi, ça. Et ça nous arrive, nous, de reprendre courage en s'appuyant sur Dieu, en se disant, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu déraisonnes. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de laisser tomber. Non, je me ressaisis. Et par la foi, je vais de l'avant et je fais face. Pense que, si vous me permettez cette réflexion, il faut associer cette expression, gens de peu de foi, aux situations dont elles dépendent pour en tirer un enseignement. Je vais très vite pour vous ce soir. Matthieu 6, c'est les inquiétudes liées à la vie. Le fait de se vêtir, ce que nous allons manger. Les oiseaux, eux, ne s'inquiètent pas de tout ça. Nous avons non seulement le moyen de la foi, mais quand ça devient difficile, Dieu nous a donné un recours. C'est la prière. Dans l'épître aux Philippiens, Paul rappelait aux chrétiens, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et avec action de grâce. » Voyez, quand la foi ne suffit plus et qu'on se sent comme submergé, on a un recours merveilleux, celui de la prière. Et dans ces problèmes liés à la vie, parfois les inquiétudes viennent tellement fort dans nos vies et dans nos cœurs que notre foi en est impactée au point que nous vivons des temps difficiles dans l'expression de notre foi. Est-ce que ça a été votre cas ou est-ce que c'est encore votre cas ce soir? Je veux vous encourager, moi, à reprendre courage, à tourner les yeux vers le Seigneur et à considérer qu'il n'a peut-être encore rien dit, rien fait, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Et ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Dieu est fidèle. Il ne nous délaisse pas, il ne nous abandonne point, mais il pourvoit nos besoins, que son nom soit béni. Quand j'étais dans une église, un jour, j'ai eu un problème avec l'embrayage, il a cassé. Et je me suis dit, mince, j'ai pas de sous. Alors, j'avais pas de sous. Hein. Alors, rien. Moi, j'ai pas d'économie, j'ai rien, comme ça au moins. J'ai pas de dette, mais j'ai pas d'économie. Voilà. Et puis, j'ai dit, comment je vais faire? Alors, je vais faire un devis. Il me dit, le mécano, il me dit, écoute, allez, je te le fais à 600 euros. J'ai dit, mon bon, j'avais même pas 50 euros à lui donner, moi. 600 euros. J'ai dit, comment je vais faire? Et puis, je vais à la réunion. Et à la réunion, j'étais là, j'étais contrarié quand même. Ça nous contrarie, hein. Et puis, j'ai dit, Seigneur, on n'a plus de voiture. J'ai des enfants, comment on va faire et tout? Oh, je dis, Seigneur, tu es là. Alors, je priais, Et puis, je savais pas, j'ai dit, mais c'est pas possible, comment on va faire? Et il y a des fois, je me surprends, je me suis laissé dire, t'es, je suis dans l'impatience de voir comment tu vas me tirer de ce problème, parce qu'alors là, je sais pas comment je vais y arriver. La réunion, elle se termine, et j'ai un frère qui vient droit sur moi. Et il me dit, Bruno, je voudrais te faire un don. J'ai dit, non, à moi ça me gêne ça. Alors j'ai dit, non, tu vas pas me faire un don. Écoute, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, Dieu m'avait mis à cœur de te donner 600 euros. Alors, je le regarde, j'ai dit, pardon. Et il me dit, il m'a mis à cœur de te donner 600 euros. Je dis, mais attends, mais pourquoi je... Alors, j'avais honte, parce que... Alors, il me dit, mais ça te fait pas plaisir? T'as pas des besoins? Alors, je dis, pour tout te dire, j'ai cassé l'embrayage. Alors, il me dit, il me dit, combien ça coûte l'embrayage? Je dis, mais écoute, je sors du mécano avant la réunion, il m'en prend 600 euros. Eh ben, tu vois, c'est les 600 euros, il me dit, je te les donne, tu peux pas faire autrement, tu les prends. Il m'a payé l'embrayage, 600 euros. J'ai dit, vous voyez, des fois, c'est comme ça. Une autre fois, j'étais dans une réunion comme celle-ci avec mon épouse et on était jeunes mariés, donc ça remonte un peu puisque ça fait quand même presque 30 ans qu'on est mariés. On était jeunes mariés et il y avait un missionnaire qui était de passage. Il nous parle sur les enfants, tout ça, en Asie. Et puis mon cœur, il est touché. Il en va faire passer la corbeille. Je dis à ma femme, combien t'as dans le porte-monnaie? Elle me dit, vous allez voir que ça remonte. Elle me dit, on n'a que 100 francs. Oh purée, je touchais que le SMIC, elle était à l'école. J'ai dit, donne-moi le billet. Alors elle me donne le billet, elle me dit, mais on n'a que ça pour finir, donne-moi le billet. j'ai mis le billet dans l'offrande. J'ai dit, bon, mais Seigneur, on verra bien. Hein. Et le lendemain, je m'arrête pour voir mes parents, parce que je rentrais du boulot, c'était sur la route. Je m'arrête sur le parking du village. J'ouvre la porte. Vous n'allez pas me croire. Je mets le pied par terre, j'entends comme un papier qui se froisse. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? J'enlève le pied, un billet de 100 francs. Sous le pied. Je suis rentré à la maison, j'étais tout fier de dire à ma femme, regarde, tu vois, quand on donne à Dieu, on ne perd pas. Tiens, 100 euros, j'ai redonné les 100 francs. On n'avait rien perdu. Ça, c'est des expériences que vous faites, que vous avez fait, d'une manière ou d'une autre, qui nous amènent à considérer, c'est vrai, qu'on ne gagne rien. On gagne pas un jour à notre vie par les inquiétudes qu'on se fait. Mais reconnaissez avec moi que parfois, on a un problème sur ce terrain-là. On a des difficultés dans la foi. On a du mal parfois à réagir. On a besoin d'une grâce du Seigneur. On a besoin que le Seigneur nous vienne en aide et qu'il nous fasse, alors je vais le dire avec mes mots, un clin d'œil qui nous montre sa grâce. Et on se dit, oh Seigneur, pardon, j'ai douté. Pardon Seigneur, parce que tu étais là, tu savais, tu avais vu. Avant bien même que ça m'arrive, tu le savais. Et tu avais déjà pourvu, tu avais déjà préparé les choses. Mais Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Alléluia. Renouvelle ma foi. Que la prochaine fois, je ne retombe pas dans le même travers, dans le même réflexe, mais que je puisse t'honorer par la foi. Alléluia. Quand je regarde Matthieu chapitre 14 comme au chapitre 8, je me rends compte que quand même les circonstances difficiles, les tempêtes de la vie peuvent nous malmener dans la foi. Peuvent entraîner bien des problèmes quant à l'expression de notre foi. Ou alors il n'y a que moi qui suis comme ça. Ça vous est jamais arrivé de vous retrouver seul avec Dieu dans une pièce et de dire, Seigneur, là je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je ne sais pas comment tu vas m'aider. Je me sens au bout du bout. Je me sens comme au bout du rouleau. Je me sens comme au bord d'un gouffre. Je sens que c'est près de craquer. Je n'y arrive plus, Seigneur. Je suis au bout. Ça vous est jamais arrivé, ça? Comme les disciples dans la barque qui pensaient qu'ils allaient périr. Et pourtant, c'était des pêcheurs expérimentés. Pourtant, on a une certaine expérience de la vie chrétienne, vous comme moi. On sait que Dieu est bon, que sa bonté, elle se renouvelle chaque matin. On sait, comme dit Jérémie, que la fidélité de Dieu est grande. On sait, comme cela a été dit à Josué, qu'il ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. Mais plus qu'à Josué, on l'a lu dans l'Épître aux Hébreux, « Je ne te délaisserai point, je t'abandonnerai point. Que peuvent me faire les hommes? Le Seigneur est mon aide. » On le sait, ça. On le lit. Et pourtant, quand la circonstance, elle vient, reconnaissez avec moi qu'on est malmené dans la foi. Ou alors il n'y a que moi, mais priez pour moi. Parce que des fois, ce n'est pas évident. Et ces choses-là conduisent à l'agitation, nous font perdre notre paix, nous amènent à des raisonnements trompeurs. Ce que Paul qualifie comme de faux raisonnements, mais on peut parler aussi de raisonnements trompeurs. C'est tout sauf l'expression de la foi. Parce que quand je la compare à ce que David dit quand il écrit dans le psaume 131, et je cite, « J'ai l'âme comme un enfant sevré auprès de sa mère. J'ai l'âme calme et tranquille. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » Je dis, « Seigneur, des fois, moi, j'ai des difficultés dans ma foi. Dans certaines circonstances, parfois. Oui, j'ai un problème, j'ai une difficulté. Et ça ne veut pas dire que je suis un mauvais chrétien. Ça ne veut pas dire que j'ai rien compris. Ça veut dire que je suis un être humain et que dans sa grâce, Dieu est prêt à me tendre une main comme il l'a tendue à Pierre dans Matthieu chapitre 14. Oui, il y a tendu une main. Pourtant, rappelez-vous avec moi, et c'est là un point que je veux aborder avec vous particulièrement. Oui, ça peut nous arriver d'avoir un problème de foi. Parce que, quelque part, nous ne sommes plus à l'écoute de ce qui sort de sa bouche, mais à l'écoute de ce que nous pouvons entendre et comprendre. Quand Pierre voit Jésus marcher, à la différence des autres, il dit « Seigneur, si c'est toi ». Vous savez comme moi que quand Jésus dit « c'est moi », en fait, la traduction littérale dit « moi, je suis ».« Moi, je suis ». Dans l'évangile de Jean, il y en a des « je suis ». « Je suis la résurrection et la vie, je suis le pain de vie », etc. Mais dans Exode chapitre 3, à Moïse, il est écrit, ben, quel nom, je dirais, qui m'envoie? Ben, tu leur diras, je suis, m'envoie vers vous. C'est je suis, c'est le même. En fait, quand il est en train de leur dire « Moi, je suis », il est en train de dire « Non seulement je marche sur les éléments parce que je suis le créateur du ciel et de la terre, moi, je suis Dieu, le Dieu véritable et la vie éternelle. » Mais Pierre répond « Mais si c'est toi, je suis, si toi, tu es Dieu, alors ordonne que je vienne vers toi. Viens. Viens. » La marche par la foi nous amène à marcher sur la parole de Jésus. Sinon, ce n'est plus la marche par la foi. Et on a un problème. Du moins, on se crée des difficultés. Tant qu'il a marché sur la parole du Christ, viens, il a marché sur l'eau. Et je trouve ça magnifique. Il a marché sur l'eau, oui ou non ? Enfin, c'est écrit quand même, hein, il a marché sur l'eau. Par la foi, seulement sur la parole de Jésus. Quand on centre sa foi sur la parole du Christ, et on sait tous que la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, verset 17. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Quand on centre notre foi sur la parole du Christ, alors le miracle devient possible. Je ne sais pas, tu vas te rappeler, Jonathan, mais dans une certaine église, oh, c'était à Béziers. C'était avec ton papa. Je me rappelle qu'un frère avait élevé la voix à une assemblée générale. Je pense que tu y étais. Et il avait dit, frère, la Bible dit, aide-toi, tu t'en rappelles ? Et le ciel t'aidera. Et je me rappelle que M. Ferris avait répondu, non, la Bible dit, on est tous des misérables et on a besoin de la grâce de Dieu. Mais elle ne dit pas, aide-toi et le ciel t'aidera. Ça, ce n'est pas écrit. Une foi centrée sur la parole du Christ, c'est ça dont nous avons besoin. Et quand notre foi n'est pas centrée sur la parole de Christ, alors il ne faut pas s'étonner de se retrouver avec des difficultés quant à l'expression de notre foi. Pourquoi ? Parce que si nous ne sommes pas à l'écoute comme les disciples doivent l'être, alors notre vie intérieure n'est pas nourrie des paroles de la foi. Alors il ne faut pas s'étonner si dans les différentes circonstances et situations, ce n'est pas la foi que nous exprimons, mais l'inquiétude, l'agitation, les raisonnements trompeurs. Non, c'est important de renverser les faux raisonnements et d'emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, c'est-à-dire à la parole du Christ. La foi, elle est là, et elle nous permet aux uns et aux autres de vivre de belles et glorieuses expériences, basées sur l'Écriture, que son nom soit glorifié. On a un problème dans la foi, quand à un moment donné, on ne regarde pas à autre chose qu'à celui qui est le chef de la foi. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, il est dit, ayant les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. Quand il est question du chef, c'est-à-dire celui qui fait naître la foi et celui qui l'amène à la perfection. C'est-à-dire, c'est lui l'auteur de la foi dans nos vies. C'est de la parole du Christ. Il est la parole faite chair. Mais quand nous ne sommes plus à l'écoute de la parole, mais quand nos yeux ne sont plus sur celui qui fait naître la foi, mais sont orientés vers une chose ou une autre, alors nous avons des difficultés que nous nous créons nous-mêmes. Croyez pas que dans la vie, il y en a suffisamment des difficultés pour que nous apprenions un peu mieux et un peu plus à avoir une foi centrée sur Christ. Seulement centrée sur Christ. C'est lui qui fait naître la foi. C'est lui qui a la capacité de la faire grandir. Et comme ça a été dit tout à l'heure dans la prière de quelqu'un, les disciples avaient raison de demander au Seigneur, dans la circonstance qui était la leur, augmente-nous la foi. Il y a des moments où, c'est vrai, cette prière jaillit de nos cœurs et de nos vies. On a besoin qu'il augmente notre foi. On a besoin qu'il la rende plus forte. Regardez, je prends deux exemples dans l'Écriture pour illustrer le premier d'une foi qui doit être centrée sur ce que nous entendons de Christ. Quand Jésus est appelé par Jairus, pour aller à son enfant qui est à l'extrémité, à sa fille. Il y va avec le Seigneur, va avec lui. Il est retardé par la femme à la perte de sang. Et alors qu'il est en train de discuter avec cette femme et qu'il la guérit, qu'il la renvoie parce qu'elle est venue à ses pieds lui dire toute la vérité, à partir du moment où ils étaient en train encore de parler, la Bible dit, survinrent de chez le chef de la synagogue des serviteurs qui lui dirent « N'importune plus le maître, ta fille elle est morte. » Ça, c'est des paroles qu'ils ont entendues, qu'il a entendues. Mais Jésus n'avait pas encore parlé. Mais quand Jésus parle, c'est différent. Regardez la suite du récit. Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Voyez, mes frères et mes sœurs, permettez-moi de vous dire qu'il y a des fois, il y a des paroles dont il ne faut pas tenir compte. Parce qu'elles ne sont pas l'expression de la foi. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, va dire à cet homme, Marc 5, verset 36, « Ne crains point, crois seulement. » Il a discuté la parole de Jésus ? N'a-t-il pas suivi Jésus ? Jésus n'a-t-il pas pris les choses en main ? Prenant Pierre, Jacques et Jean avec lui, seul et laissant les autres ? N'a-t-il pas ressuscité cette jeune fille ? N'a-t-il pas rendu cette jeune fille à ses parents ? Si ? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de réfléchir simplement à centrer notre foi sur les paroles du Christ et de les vivre pleinement ? Quand j'étais dans une église, un frère disait un jour dans la prédication la chose suivante, et j'ai trouvé que c'était intelligent. On en connaît plein de choses. On en a entendu un paquet de prédications, vous et moi. Mais si on pouvait s'arrêter à simplement prendre un verset et le mettre en pratique. Et puis quand on l'a acquis, qu'on l'a mis en pratique, en prendre un deuxième et le mettre en pratique. Mettre en pratique les paroles du Christ, c'est l'expression d'une foi et d'une foi réelle. La parole du Christ. Et pour situer un petit peu le deuxième point, qui nous parle d'un problème si notre foi n'est pas un regard dans la direction de celui qui est le chef. Quand vous voyez Jésus arriver à Bethsaïda, c'est dans Marc chapitre 8, et qu'on lui amène un aveugle, il va prendre l'aveugle par la main. Dans le premier récit comme dans le deuxième récit, je remarque que Jésus prend les choses en main. Je ne me fais pas de soucis de ce côté-là. Jésus prend les choses en main. Il prend les choses en main pour nos vies, il prend les choses en main pour son Église, c'est lui qui bâtit l'Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. J'en suis convaincu. Il le prend à part. Il le prend à part du bruit. Il le met à part de la foule. Il est question maintenant que cet homme se centre sur le Christ. Jésus avec sa salive touche ses yeux, lui impose les mains et lui demande ce qu'il voit. Et il va regarder et il va lui dire « Je vois des hommes comme des arbres » et ils marchent. Et ils marchent. C'est étonnant, ça n'a pas marché du premier coup. Ben oui, remarquez avec moi, il regardait à des hommes qui ressemblaient à des arbres et qui marchaient. Sauf que quand Jésus impose une seconde fois les mains, et qu'il va être invité à regarder, et qu'il va regarder fixement, qui il regarde à ce moment-là quand ses yeux s'ouvrent ? C'est le Christ qu'il voit. Il n'y a plus l'expression d'un regard qui se promène et qui regarde aux autres hommes, mais à l'expression d'un regard qui est centré sur le Christ. Mes frères et mes sœurs, là, on a une bonne orientation. Regardez à Jésus, regardez à lui. D'ailleurs, on ne vient pas à l'Église pour autre chose, même si on aime la communion fraternelle. Moi, j'aime penser que je vais à l'Église parce que c'est là ma place, j'y vais rencontrer Dieu, j'y vais pour vivre un moment avec Dieu, pour lui apporter ma reconnaissance, ma prière, ma modeste contribution, mais c'est les yeux sur lui que j'y vais. C'est à lui dont je m'attends. Vous savez, quand vous regardez les exemples dans les Écritures, le boiteux de naissance qui était là et qui était assis à la porte dite la belle, qui faisait l'aumône et qui va regarder un petit peu les apôtres qui étaient en train de monter à l'heure de la prière, la Bible dit que les apôtres vont le regarder fixement et vont lui dire « Regarde-nous ! Regarde-nous !» Il va les regarder attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Je pense que des fois, c'est ce regard-là qu'il nous faut, mes frères et mes sœurs, dans la foi. C'est ce regard-là. Quand les disciples sont sur la montagne de la Transfiguration, que la nuée descend à un moment donné et les couvre à tous, et qu'une voix se fait entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce qu'il dit, Dieu ?» Écoutez-le. une foi centrée sur la parole du Christ. Mais à un moment donné, la Bible dit, ils levèrent les yeux et ils ne virent que Jésus seul. Centré à l'oreille sur ce qui est dit, centré dans le regard sur le Christ, alléluia. C'est notre part, c'est notre privilège. Et s'il n'en est pas ainsi, nous risquons de rencontrer des difficultés dans la foi. C'est notre privilège. Et je voudrais, au travers de cela, vous y encourager ce soir. C'est vrai qu'on peut avoir des difficultés. Ça peut arriver. C'est quelque chose qui peut frapper à la porte de nos vies. Mais mes frères et mes sœurs, on a le devoir, par sa grâce, de se ressaisir par la foi et de prendre des forces dans notre foi, de la voir faire des progrès, de la voir aller de l'avant. Dites-moi, quand vous regardez à Pierre, il a bien marché sur la parole de Jésus. Quand il a considéré que les vents étaient forts, il a commencé à s'enfoncer. Il n'a eu son recours que dans quoi ? Que dans le fait de crier au Seigneur. Et quand un malheureux crie, quand les justes crient, mais dans le même psaume 34, il est dit, mais quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. C'est le verset 6. Et le visage ne se couvre pas de honte. Mais je me dis, mais mes frères et mes sœurs, voilà les réflexes qu'il nous faut avoir. Pierre, quand il a sombré, il a crié à Jésus, comme je vous disais tout à l'heure avec l'épître aux Philippiens, mais ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins. On a le droit de crier à Dieu. On a le droit de l'appeler au secours, de lui dire, Seigneur, je sens que je suis en train d'être malmené dans ma foi. Je sens que je sombre dans ma foi, mais viens me renouveler ce soir. Alléluia. Ranime ma foi, qu'elle soit vivante et efficace, qu'elle soit forte en toi, gloire à Dieu. Hey, le Seigneur va l'aider, va lui tendre une main. Il n'a pas enfoncé en appuyant sa tête dans l'eau, même s'il lui a dit, homme de peu de foi. Et dans les propos de Jésus, je ne peux pas m'imaginer qu'il y a là l'expression de quelque chose qui ressemble à une réprimande. Mais plutôt l'expression de quelque chose qui ressemble à une forme de consternation. Après tout ce que tu as vécu, mon frère, ma sœur, avec Dieu, après tout ce que j'ai vécu, pourrait-on encore sombrer comme si Dieu n'était pas là? J'ai dit non, c'est pas possible. C'est lui qui est mon chef. C'est lui qui m'a donné la foi. C'est lui qui garde le bon dépôt qu'il a mis en moi. Et je crois que c'est lui qui me conduit à faire des progrès dans cette foi. Alors je vais conclure de la manière suivante. La foi que nous vivons n'est autre que le moyen de Dieu, accordé à chacun d'entre nous pour vivre sa présence, sa puissance, son secours d'une manière particulière. Vous savez que Paul disait aux Corinthiens, c'est dans sa deuxième lettre, que leur foi ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Mais ils voulaient que leur foi fût fondée sur la puissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Dans l'héritage d'Israël, les générations devaient transmettre aux plus jeunes les hauts faits de l'Éternel. De quelle manière, à main forte, à bras étendus, Dieu avait fait sortir son peuple d'Égypte? De quelle manière il leur avait fait passer la mer Rouge? La foi des générations qui devaient monter devait reposer sur un Dieu tout-puissant qui était capable de faire des miracles. De la même manière, nous aussi nous ne devons pas oublier que notre foi a été fondée, nous l'avons reçue par un miracle, notre vie a été changée, transformée par la puissance de Dieu. Ça n'a pas été fait par des discours persuasifs des hommes. Sinon, on n'est pas vraiment devenu une nouvelle créature. Mais devenir une nouvelle créature, c'est le plus grand et le plus beau des miracles. Mais c'est par la puissance de Dieu. Notre foi est fondée sur la puissance de Dieu. Sinon, on ne serait pas là ce soir. Mais de la même manière, on se rappelle que Dieu n'a pas changé. Qu'il est toujours capable d'agir d'une manière miraculeuse, baptisant du Saint-Esprit, renouvelant l'expression de notre foi, nous encourageant, séchant les larmes de nos yeux. C'est ce Dieu que nous aimons et que nous chérissons dans nos cœurs et dans nos vies. Alors mes frères et mes sœurs, oui, j'ai envie de vous le dire. C'est pas que nous avons un problème. Mais peut-être, en employant le synonyme, on le comprend mieux, des difficultés quant à la foi, ça peut nous arriver. Mais que Dieu renouvelle notre foi, son expression, et qu'au travers de cela, nous fassions la démonstration, les uns et les autres, d'un réel attachement à Dieu. Nos vies sont entre ses mains, elles dépendent de lui uniquement, et c'est lui qui les conduit et les dirige. On courbe nos fronts, vous voulez bien.